Chapitre 8. Pendant toute la journée du samedi saint, Galarde reçut la visite d'innombrables amis qui l'abordaient le sourire aux lèvres. « On va donc te revoir à l'œuvre. La fissionne a les yeux sur toi. Eh bien, comment vont les forces ?»« Je ferai mon possible, » répondait-il avec une feinte modestie. « J'espère que je ne m'en tirerai pas trop mal. Je ne me ressens plus de mes blessures. » « Tu vas t'orer comme un ange !» interrompait Don José avec l'enthousiasme de la foi. « Tu vas mettre les bitures dans ta poche !» Le jour de la course, le départ du matador pour le cirque fut plus pénible que jamais. Carmen s'efforça de paraître calme et voulut même assister à la vêture de son mari. Mais, quoiqu'elle fît semblant d'être insouciante et joyeuse, elle n'en devinait pas moins qu'une secrète inquiétude travaillait l'esprit du matador. En dépit des apparences, celui-ci n'était plus si sûr de lui-même. Il doutait de l'agilité de sa jambe et de la vigueur de son bras. Lorsque Juan descendit dans le patio, coiffé de la montère, la cape sur l'épaule, la señora Angustias lui jeta les bras autour du cou et fondit en larmes. Elle ne prononça pas un mot, mais ses gros soupirs exprimaient suffisamment ses angoisses. Courir le taureau, pour la première fois après la catastrophe, dans ce même cirque où il avait été si affreusement blessé, n'était-ce pas trop téméraire? Ces superstitions de femmes du peuple s'insurgeaient contre une telle imprudence. Ah, quand Roigny où prendrait-il enfin sa retraite? N'avait-il pas gagné assez d'argent? Mais le beau-frère intervint avec son autorité de conseiller de la famille. Voyons, petite mère, il n'y a pas de quoi se désoler ainsi. Une course comme les autres, en somme. À quoi bon troubler Roigny ou par des pleurnicheries au moment où il part pour la plaza? Carmen accompagna son mari jusqu'à la porte. Elle voulait lui donner l'exemple du courage. « Bonne chance !» lui dit-elle en souriant. Mais, aussitôt que la voiture, suivie par une bande de galopins, eut tourné le coin de la rue, elle monta dans sa chambre, alluma des cierges devant la Vierge de l'Espérance, s'agenouilla, se mit à prier et à pleurer. Une bruyante ovation et des battements de mains frénétiques saluèrent le défilé des quadrilles. Tous les applaudissements étaient pour ce Galarde qui avait failli mourir et qui, toujours aussi fier et aussi vaillant, revenait offrir au peuple le magnifique spectacle de son adresse et de son intrépidité. Quand le matador eut à combattre son premier taureau, une nouvelle explosion d'enthousiasme éclata. Dans les loges, les femmes en mantille blanche l'observaient avec leurs jumelles. Ses ennemis eux-mêmes se sentaient entraînés par un irrésistible courant de sympathie. Pauvre garçon, il avait tant souffert. Toute l'assistance lui était acquise. Jamais Galarde n'avait eu un public aussi complètement à lui. Face au président, il ôta sa montère pour le brindis. Olé! Olé! L'ovation, après l'avoir accompagné dans sa marche vers le taureau, s'acheva en un silence d'attente lorsqu'il eut rejoint la bête. La moulette à haut point, il se campa devant l'animal, non plus comme autrefois lorsqu'il déployait le chiffon rouge presque sur le mufle, mais à quelque distance. Il y eut dans l'amphithéâtre un mouvement de surprise. Mais personne ne souffla mot. À plusieurs reprises, le matador frappa du pied pour provoquer la bête. Et enfin, celle-ci attaqua mollement, passa sous la moulette. Mais l'espada s'était jetée de côté avec une hâte visible. Sur quoi, nombre de spectateurs se regardèrent. Qu'est-ce que cela signifiait? Galarde vit près de lui le national et, quelques pas plus loin, un autre péon de sa quadrille. Mais il ne leur cria plus, tout le monde au large. Sur les gradins s'élevait une rumeur produite par de vives discussions. Les partisans du matador jugeaient nécessaire de s'expliquer au nom de leur idole. Il souffre toujours de sa blessure. Il n'aurait pas dû torer encore. Cette maudite jambe, ne voyez-vous pas? Les deux péons aidaient Galarde dans ses passes. La bête s'agitait, étourdie par les étoffes rouges, et dès qu'elle chargeait, une cape la détournait de l'espada. Pour sortir au plus vite de cette désagréable situation, Galarde se profila, l'épée haute, et bondit sur le taureau. La lame, entrée seulement jusqu'au tiers de sa longueur, brandilla, prête à rejaillir. Un murmure de stupeur accueillit le coup. Au lieu d'enfoncer les stocks jusqu'à la garde, le matador s'était mis précipitamment hors de la portée des cornes. « Comme l'épée est bien placée, criaient les fanatiques, applaudissant à tout rompre pour que le tapage suppléât au nombre. Il n'y a pas à dire le contraire. Mais les connaisseurs souriaient de pitié. Ce garçon allait perdre l'unique mérite qu'il possédât, la bravoure, l'audace. On avait bien vu ce qui s'était passé. Au moment où l'épée atteignait le taureau, le matador avait instinctivement raccourci le bras et détourné la tête par l'effet de cette peur qui empêche un homme de regarder le péril en face. L'estoc tomba par terre, Gallardo en prit un autre et, toujours accompagné de ses péons, revint au taureau. La seconde estocade ne fut guère plus heureuse que la première. La moitié de la lame resta hors du garrot. Les spectateurs des gradins commencèrent à protester. « Il n'appuie pas ! Les cornes lui font mal au cœur !» Gallardo ouvrait les bras en croix pour donner à entendre que l'animal avait son compte et que, d'un moment à l'autre, il s'abattrait. Mais le taureau s'obstinait à rester debout et balançait la tête à droite et à gauche. Le national se mit à le taquiner, à le faire courir, saisit les occasions de frapper lourdement sur le cou avec sa cape, de toute la vigueur de son bras, pour enfoncer l'épée. Le public devina l'intention du banderillero et proféra contre lui de grossières insultes. Du côté du soleil, on brandissait déjà des gourdins, on jetait dans l'arène des oranges et des bouteilles. Mais le bon Sébastien supportait ces bordées d'insultes et de projectiles comme s'il eût été sourd et aveugle, et il continuait à pourchasser le taureau, en homme heureux d'accomplir son devoir et de sauver son ami. Bientôt, la bête vomit par la bouche un flot de sang et plia lentement les pattes. Mais elle n'en gardait pas moins la tête haute et semblait prête à se relever et à attaquer. Alors le national pesa furtivement sur l'épée, la fit pénétrer jusqu'à la garde. Par malheur, le public s'aperçut de cette manœuvre et, transporté de colère, se mit à trépigner et à hurler « Brigand ! Assassin !» On s'apitoyait sur le pauvre taureau comme si, de toute manière, il n'était pas destiné à périr, et on menaçait du poing le national avec autant d'indignation que s'il venait de commettre un crime sous les yeux des spectateurs. Cependant, Gallardo se dirigeait vers la présidence pour saluer, tandis que ses partisans plaidaient en sa faveur les circonstances atténuantes. « Il n'a pas eu de chance, » disait-il, un peu décontenancé. « Le taureau était si mauvais !» Jusqu'à l'heure d'entrer en lice pour son second taureau, Gallardo demeura près de la barrière, immobile, plongé dans de sombres réflexions. Il avait beau essayer de se faire illusion, il était bien obligé de s'avouer qu'il n'était plus le même. Les taureaux lui paraissaient plus grands, plus résistants. Ceux d'autrefois tombaient sous son épée avec une facilité miraculeuse. Ceux d'aujourd'hui semblaient avoir une vie double et s'entêtaient à ne pas mourir. Autre chose encore. Son bras, au moment de pousser l'épée, lui paraissait plus court. Autrefois, ce bras atteignait avec la rapidité de l'éclair le garrot de la bête. Aujourd'hui, c'était un voyage interminable à travers l'espace où les stocks ne rencontraient rien. Et ses jambes aussi avaient changé. Maintenant, elles lui obéissaient mal, avaient pour ainsi dire une action propre, indépendante du reste de son corps. Sa volonté leur ordonnait en vain de rester calmes et fermes. C'était à croire qu'elles avaient des yeux, qu'elles discernaient le danger. Dès que la bête chargeait, elle bondissait de côté avec un élan incoercible. Pour atténuer ce que ces constatations avaient de trop affligeant, Gallardo retournait contre le public la rage que lui causait sa soudaine faiblesse et la honte de son insuccès. Que voulaient donc ces gens-là? Qu'ils se fissent tuer pour leur plaisir? Certes, il n'avait plus besoin de prouver son courage. Il portait sur le corps, gravé dans la chair, les témoignages de sa folle audace. Il avait vu de près la face décharnée de la mort, et c'était précisément pour cela qu'il connaissait mieux que personne le prix de la vie. « Si vous croyez que je vais vous sacrifier ma peau, » grommelait-il, tout en observant la foule à la dérobée. Quand son second taureau parut dans l'arène, il avait recouvré son sang-froid, et il était décidé à faire consciencieusement son devoir professionnel, mais autant que possible sans se laisser découdre. Il marcha vers la bête avec la fière attitude des grands jours et cria très haut « Tout le monde au large !» La foule s'agita avec un murmure de satisfaction. Il avait dit « Tout le monde au large !» Il allait donc renouveler quelques-unes de ses anciennes prouesses. Mais le national, avec sa clairvoyance de vieux péon habitué aux fanfaronnades des matadors, comprit le mensonge théâtral de cet ordre et continua de suivre son chef, la cape sur le bras. Galarde déploya la moulette à quelque distance de l'animal et, avec une appréhension manifeste, commença les passes, aidé par Sébastien. À un certain moment, comme le matador avait tardé un peu à relever le chiffon, le taureau fit mine d'assaillir, mais, en réalité, il ne bougea pas. Néanmoins, Galarde, qui se tenait trop sur ses gardes, se laissa tromper par l'apparence et sauta en arrière. C'était fuir une bête qui n'avait pas attaqué. Ce recul malencontreux mit le public en gaieté et une voix gouailleuse brailla « Sauve-toi vite, il t'attrape !»« Pauvre chéri !» cria un autre d'une voix comiquement efféminée. Le matador blêmit de colère et sa fureur se déchargea contre l'animal qui lui valait cette injure en plein cirque de Séville. Marchant de biais vers le taureau, il le frappa traîtreusement d'une estocade oblique et le taureau tomba comme un bœuf d'abattoir. Quelques-uns applaudirent sans savoir pourquoi. D'autres sifflèrent. La grande masse garda le silence. Au sortir du cirque, le matador put constater la froideur de la foule. Les groupes passaient près de lui sans une acclamation. Pour la première fois, il goûta toute l'amertume de l'échec. Ses banderiers roses eux-mêmes fronçaient le sourcil et demeuraient taciturnes comme des soldats en déroute. Le soir de cette course malheureuse, Galarde, irrité contre les autres et contre lui-même, avide de distraction et d'oubli, se laissa emmener par quelques jeunes gens de son cercle à la Venta de Eritania pour y faire la débauche. On devait souper en compagnie de trois grandes cocottes parisiennes qui, venues à Séville pour les fêtes de la Semaine Sainte, étaient curieuses de voir de près ce toréador dont elles avaient si souvent admiré le portrait dans les journaux illustrés et sur les boîtes d'allumettes. La partie fine eut lieu dans la grande salle à manger d'Eritania. C'était un salon en plein jardin, orné d'un décor mauresque, dont la vulgarité mesquine prétendait reproduire les splendeurs de l'Alhambra. Tour à tour, ce local servait pour les banquets politiques et pour les orgies. On y toastait avec une fougueuse éloquence à la régénération de la patrie, et on y dansait l'impudique tango au ronron des guitares parmi le fracas des bouteilles cassées et les petits cris des femmes qu'on embrassait dans les coins. Galarde fut accueillie comme un demi-dieu par les cocottes. Elle n'avait Dieu que pour lui, se disputait l'honneur de s'asseoir à son côté, le dévorait de regards amoureux. C'étaient des femmes d'une beauté un peu fanée, mais que ravivaient les fards et les artifices de la toilette. Machinalement, l'espade allait comparer à l'autre, à celle qu'il n'avait pas encore oubliée tout à fait, à celle qu'il avait ensorcelée par sa chevelure d'or, par l'inimitable élégance de ses vêtements, par la saine fraîcheur de sa chair parfumée et tentatrice. On but et on mangea avec la voracité qui est de règle dans ces fêtes nocturnes, où les convives se rendent avec le ferme propos de commettre toutes sortes d'excès et comptent sur l'ébriété pour obtenir le plus vite possible l'étourdissement et l'allégresse. À minuit, tout le monde était ivre, et les femmes assaillaient Galarde de leur admiration libertine, lui plaquaient des baisers sur la nuque et dans le cou. Mais il demeurait inerte et somnolent sous les lèvres qui le caressaient, sous les mains qui le provoquaient. Et son ivresse était si triste que bientôt les femmes, déçues et vexées, cessèrent de faire attention à lui. Vers 3 heures du matin, comme il était affalé sur une banquette où il cuvait son vin, l'un des jeunes gens s'approcha, le secoua par l'épaule et lui offrit de le ramener à la maison. Le vent nocturne ne suffit pas à dissiper l'ivresse du torero, qui, lorsque son compagnon l'eut laissé seul, à l'entrée de sa rue, se dirigeant titubant vers son logis, s'arrêta près de sa porte, croisa ses bras contre la muraille et y appuya son front, que sans doute le poids des pensées rendait trop lourd. Il avait complètement oublié le souper, les amis, les femmes maquillées. Et son esprit, par un de ces revirements capricieux que produit l'ivresse, était occupé tout entier par l'idée des courses de taureaux. Olé ! Don José avait bien raison. C'était lui, Galarde, le premier homme du monde. Ah, comme ses ennemis allaient crever de jalousie lorsqu'il reparaîtrait dans la plaza ! Ce qui était arrivé aujourd'hui n'était qu'un accident fortuit et sans conséquence. De la mélasse, comme disait le national. N'arrive-t-il pas au meilleur chanteur de lâcher un couac ? Cet aphorisme, qu'il avait tout et souvent énoncé par les vénérables patriarches de la tauromachie, les soirs de fiasco, lui inspira une irrésistible envie de chanter, et d'une voix de pochard, il entonna à sa propre louange un couplet de son invention. « Oui, Juan Gallardo est un preux plus preux que le bon Dieu !» Puis, comme sa veine poétique ne lui fournissait pas autre chose, il se mit à répéter 20 fois de suite ces deux vers, auxquels répondaient les aboiements d'un chien dans les ténèbres. Il les répéta tant et tant qu'à la fin la porte s'ouvrit et que Garabato parut. Le domestique fit rentrer son maître. Mais celui-ci ne voulut pas se coucher. Peut-être craignait-il confusément que, s'il montait au premier étage, Carmen s'aperçût de l'état où il se trouvait.
« Laisse-moi, Garabato, » dit-il impérieusement au serviteur. « J'ai beaucoup à faire. J'entre dans mon cabinet de travail. »
Lorsque les lampes électriques furent allumées, Gallardo, seul au milieu de la pièce et flageolant sur ses jambes molles, promena autour de lui des regards d'admiration. De toutes parts, en guise de tableaux et de trophées, il voyait de superbes portraits de lui-même, des affiches de courses qui avaient été pour lui des triomphes, des devises qu'il avait hardiment cueillies sur les chines des taureaux. C'était comme un musée de sa propre gloire.
« Parfait ! Parfait !» balbutiait-il la langue pâteuse. « C'est moi ce gaillard-là, et cet autre aussi, et cet autre aussi !»
Il jeta son chapeau sur un divan et alla s'appuyer des deux mains sur la table. Quelques instants après, ses regards vagues rencontrèrent l'énorme tête de taureau qui décorait le mur, au-dessus du fauteuil.
« Bonsoir, ma brave bête. Qu'est-ce que tu fais là ?
Il ne savait plus pourquoi elle était dans son cabinet, cette tête aux cornes menaçantes qu'il saluait par des mugissements. Mais bientôt, la mémoire lui revint.
« Ah, je te reconnais, mon petit. C'est toi qui m'as donné tant de peine un jour. Les gens me sifflaient, me jetaient des bouteilles. Comme tu devais t'amuser, gredin !»
Jusqu'alors, il avait été de bonne humeur, mais ses yeux hallucinés d'homme ivre crurent voir que l'animal acquiesçait par une légère inclination de la tête, tandis que l'ironie d'un sourire passait dans le brillant de son mufle verni. Et soudain, une violente colère s'empara du matador.
« Le voilà qui riait, ce maudit bicho. Ah oui, c'était leur faute, à ces taureaux d'une méchanceté perverse, qui préméditaient leurs coups et qui semblaient se moquer de l'espada. C'était leur faute si un galant homme se couvrait de ridicule et était insulté en public. Tu ris, carogne ! Maudite soit la vache qui t'a porté et le voleur de ganadero qui t'a donné son herbe. Tu ris, tu te moques, eh bien, tant pis pour toi !»
Et dans l'aveuglement de sa fureur alcoolique, il saisit sur sa table un revolver chargé. Pan, pan ! La première balle fit jaillir de l'orbite en menus éclats l'un des yeux de verre, et la seconde balle, tirée presque à bout portant, ouvrit dans le crâne, entre les poils grillés, un petit trou rond et noir. Les jours suivants, Gallardo éprouva le besoin de se montrer, de causer avec ses amis dans les cafés populaires et dans les petits cercles de la rue des Serpents. Il espérait qu'en obligeant par sa présence les mauvaises langues à une courtoise discrétion, il couperait court aux commentaires hostiles. Et il passait des après-midi entiers au milieu de ces aficionados modestes qu'il avait si longtemps négligés pour rechercher l'amitié des gens riches. Dans la soirée, il allait au 45 où le fondait de pouvoir, à force de crises et de gestes, tâchait d'imposer ses convictions admiratives. Brave Don José, avec son enthousiasme à l'épreuve du canon, il ne parvenait pas à se mettre dans la cervelle que son matador pût cesser d'être le héros qu'il s'imaginait. Jamais une critique, jamais un reproche. Au contraire, c'était lui qui se chargeait de fournir des excuses à l'espade, non sans y joindre quantité d'excellents conseils pour l'avenir. « Tu te ressens encore de ta blessure. C'est ce que je répète à tout le monde. Quand il sera bien rétabli, vous le verrez à l'œuvre et vous m'en direz des nouvelles. Crois-moi, voici ce que tu dois faire. Avec cette vaillance que Dieu t'a donnée en partage, tu vas droit au taureau et, vlan, d'une estocade enfoncée jusqu'à la garde, tu le mets dans ta poche. » Le matador approuvait par un sourire énigmatique. Il n'aurait pas demandé mieux que de mettre les taureaux dans sa poche. Mais, hélas, ces maudites bêtes étaient devenues énormes et intraitables. Pendant la première quinzaine de mai, Galardo prit part à 3 ou 4 courses dans des villes des provinces méridionales et il y fut médiocre. 1 ou 2 estocades qui, par hasard, portèrent au bon endroit et firent plier les pattes à la bête, mais presque toujours des coups incertains qui ne pénétraient pas assez profondément et plusieurs fois d'inexcusables maladresses, d'involontaires mouvements de recul causés par le souci instinctif de la conservation. Or, dès qu'il faisait un pas en arrière, la populace l'insultait. Déjà, on savait partout ce qui s'était passé à Séville dans la course de Pâques et on ne lui pardonnait plus la moindre faute. Les gens qu'il avait vus d'une hardiesse folle, affrontant aveuglément le danger, voulaient qu'il fût ainsi jusqu'au jour où, pour leur plaisir, il succomberait dans l'arène. Ses ennemis étaient heureux de se venger enfin de ses longs triomphes, et ses collègues, avec d'hypocrites démonstrations de regret, se complaisaient à parler de sa décadence. Le charme était rompu. Désormais, le public se sentait mal disposé à son égard. Lorsqu'il réussissait, on ne l'applaudissait plus autant qu'auparavant, et lorsqu'il échouait, on l'accablait de protestations et d'outrages. Don José lui-même, sans être d'ailleurs ébranlé dans sa foi, ne pouvait se dissimuler que les choses prenaient une mauvaise tournure. Son matador demeurait pour lui le premier homme du monde, mais il avait recommencé trop vite à torer. Ce n'était pas le courage qui manquait à Galardo, c'était ses forces qui trahissaient ce courage. Puisque le pauvre garçon était encore fatigué de ses blessures, ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de se reposer jusqu'à l'année prochaine. « Veux-tu que je te dise mon avis ?» lui suggéra un jour le fondé de pouvoir. « Il est impossible qu'un homme comme toi se montre dans le redondel sans qu'on l'applaudisse. Accorde-toi donc le loisir nécessaire pour que ton bras et ta jambe retrouvent toute leur souplesse. Je me charge d'arranger la chose. » Un certificat de médecin, publié dans les journaux, suffira pour justifier ton inaction momentanée et je me mettrai d'accord avec les entrepreneurs de course au sujet de tes engagements. Ils te remplaceront par un second espade qui se contentera d'un modeste salaire et c'est toi qui bénéficieras de la différence. Puis, l'an prochain, tu reparaîtras sur l'arène et tu feras pâlir de rage tous tes rivaux. Mais Galardo n'entendit pas de cette oreille. Il avait sur le cœur ses récents insuccès et son amour-propre ulcéré avait besoin d'une revanche immédiate. Qu'il n'eût pas été bon dans les dernières courses, il était le premier à en convenir et il en attribuait la faute à sa nervosité. Mais à présent, il se sentait maître de lui-même et on verrait bientôt qu'il était encore capable de refaire tout ce qu'il avait fait. Repoussé de ce côté, Don José, que l'obstination du maître peinait, mais à qui elle inspirait aussi une sorte d'estime compatissante, essaya d'un autre moyen pour l'éloigner pendant quelque temps de ces cirques espagnols où le public, ingrat et monté contre lui, ne témoignait aucune indulgence à un convalescent. « Eh bien, puisque tu veux continuer à torer, voici ce que je te propose. J'ai causé avec un entrepreneur qui part dans quelques jours pour l'Amérique. Pars avec lui. » Je t'obtiendrai un contrat très avantageux. Là-bas, tu t'entretiendras la main et tu reviendras avec beaucoup d'argent. Aller en Amérique ? Non, non. Galardo s'y refusait absolument. Ce départ aurait ressemblé à une fuite. Il se devait à lui-même de rétablir à Madrid sa réputation compromise, de prouver à ses compatriotes qu'il était toujours digne de leur faveur et de leurs acclamations. Il avait un engagement dans la capitale pour la semaine prochaine. À aucun prix, il ne consentirait à le résilier. Lorsqu'il arriva à Madrid avec sa quadrille, il trouva le mauvais temps. En pleine saison printanière, le thermomètre avait subitement baissé, ce qui n'est pas rare dans ce pays où le climat est variable et quinteux. Il faisait froid. Le ciel gris se fondait en averses, mêlé parfois de flocons de neige, et les gens avaient endossé de nouveau leurs cabans et leurs pardessus. Bon gré mal gré, il fallut remettre au premier beau jour la course annoncée pour le dimanche. Le directeur, les employés du cirque, les aficionados regardaient en l'air avec la même angoisse que le laboureur qui craint pour sa récolte. Une éclaircie, quelques étoiles aperçues dans le ciel, à l'heure où l'on sort des cafés, leur causait une joie trompeuse. « Voyez, le temps se découvre, il fera beau demain, après-demain on courra. » Vaine espérance, le lendemain, les nuages obstruaient de nouveau le ciel et la pluie recommençait à tomber. Le repos forcé dura 15 jours et la quadrille de Gallardo était désolée de cette inaction. Partout ailleurs qu'à Madrid, elle s'y fut résignée sans peine, car alors les frais d'hôtel eussent été à la charge de l'Espada. Mais, en vertu d'un fâcheux usage depuis longtemps établi, les chefs de quadrille, sous prétexte que tous les toreros doivent avoir un domicile dans la capitale, se dispensent de les y défrayer. Si bien que les pauvres peones et les pauvres picadors, logés dans une méchante casa de huéspedes, tenue par la veuve d'un banderillero, s'imposaient nombre de petites privations, rognaient sur le tabac et songeaient avec amertume que le jour où l'on donnerait enfin la course, ils auraient déjà mangé cette poignée de douros qu'ils gagnaient au péril de leur vie et qui était si nécessaire à la subsistance de leur famille. Gallardo, installé seul à son hôtel, n'était pas de meilleure humeur. Dans sa perplexité d'homme populaire qui sent son prestige affaibli, il prodiguait les visites au café anglais où se réunissaient les partisans des toreros andalous. Mais il se gardait bien d'entrer dans les cafés de la Puerta del Sol, fréquentés spécialement par les fanatiques de l'école madrilène. Ceux-ci sont des intransigeants que contriste la supériorité tauromachique de Séville et de Cordoue et qui déplorent que, depuis Frascuelo, la capitale ne se puisse glorifier d'un seul nom illustre. À les en croire, il n'existe plus de vrais toreros. Tout ce qu'il y a, ce sont des morveux dépourvus des premiers principes de l'art, des pitres méridionaux qui savent seulement faire des singeries avec leurs capes et avec leurs corps, et qui ne soupçonnent même pas ce que c'est que recevoir un taureau. De temps à autre, un léger souffle d'espérance ranime un peu ces aficionados découragés. Ils ont découvert dans les faubourgs un novillero qui s'est déjà distingué sur les places de Vallecas et de Tétouan, et ils commencent à se persuader que Madrid aura bientôt son grand matador. Tout de suite, le novillero devient populaire. On parle de lui avec enthousiasme chez les barbiers des quartiers bas. On prophétise pour lui des triomphes. Mais le temps passe et les prophéties ne se réalisent point, soit qu'un beau jour, le futur héros succombe à une cogida mortelle, sans autre gloire que 4 lignes de nécrologie dans les gazettes, soit que le grand homme se rapetisse insensiblement et finisse par n'être plus qu'un des péripatéticiens qui exhibent leur colette sur les trottoirs de la Puerta del Sol en attendant des engagements problématiques. Et alors, les enthousiastes tournent les yeux vers un autre débutant, non moins obstiné que ces juifs à attendre leur messie. Gallardo savait que ses fanatiques ne l'avaient jamais admiré, qu'il se réjouissait aujourd'hui de sa décadence et que, s'il se montrait dans la salle, cet injuste clique s'empresserait de déblatérer contre lui. Le désir de se faire des amis, de s'attirer la sympathie du plus grand nombre possible de personnes, le portait maintenant à tolérer, à rechercher même, des relations qu'il aurait évitées et méprisées l'année précédente. Le soir, lorsqu'il se promenait au centre de Madrid, il se laissait aborder, dans la rue de Séville, par ces toreros bohèmes qui tiennent leur conciliabule sur le trottoir et qui passent la moitié de la nuit à se vanter les uns aux autres de leurs exploits mensongers. Tous bien vêtus, coquets, fringants, avec une mirobolante ferblanterie de bagues et de chaînes en doublé. Il le saluait pompeusement du nom de maître, lui lâchait en plein visage des louanges hyperboliques et finissait par lui emprunter 5 pesetas. Cette plèbe de la tauromachie avait ses hommes illustres qui, du reste, devaient la considération dont on les entourait à tout autre chose qu'à de savantes estocades. Tel d'entre eux, connu pour fuir devant les taureaux, était célèbre et redouté pour la facilité avec laquelle il jouait de la navarre. Couteau à ressort. Tel autre avait passé quelques années au bagne pour avoir tué un homme d'un coup de poing. Ce qui avait valu au fameux Tragasombreros la renommée dont il jouissait, c'était le pari qu'il avait fait une nuit de crapules dans un cabaret de Vallecas de manger un feutre cordouan frit par petits morceaux en buvant du vin à discrétion pour faire couler les bouchées. D'autres, superbes gaillards à l'allure insolente, fiers de leur vigueur virile, ne se lassaient pas de conter à Galardo les bonnes fortunes qui paraissaient être leur plus clair moyen d'existence. Lorsque la matinée était belle, ils s'en allaient au Paseo de la Castellane pour y faire des conquêtes, à l'heure où les institutrices de grandes maisons viennent y promener les enfants. Ils rencontraient là des misses, des Fräulein, récemment débarquées de Madrid, avec des idées fantastiques sur ce pays de légende, et qui, dès qu'elles apercevaient un joli garçon à la face rasée et au large feutre, se persuadaient que c'était un torero. Avoir un torero pour amoureux. Un peu fade, vous savez, cher maître, ces gachis-là. Grand pâturon, poil de filasse, mais somme toute commodes à l'usage. Oh oui, commodes, je ne vous dis que ça. Et comme elles ne comprennent pas un traître mot d'espagnol, on n'a pas besoin, avec elles, de se mettre en frais d'éloquence. Il suffit de rire, de leur montrer des dents blanches, de rouler des yeux de poisson frit. Elles ont beau ne pas savoir parler chrétien, lorsqu'ensuite on leur fait signe qu'on serait bien aise d'avoir un peu d'argent, elles vous en donnent sans se faire prier, pour le tabac et pour le reste. À cette heure, j'ai trois de ces jouvencelles qui m'aident à vivre. Certains d'entre eux se consacraient aux étrangères des music-halls, aux danseuses ou aux chanteuses qui grillaient d'avoir, dès les premiers jours de leur installation à Madrid, un amant toréador. C'étaient des Françaises sémillantes, au nez retroussé et à la poitrine plate, idéales créatures qui, dans leurs altesses immatérielles, possédaient à peine, sous les plis de leurs robes parfumées et froufroutantes, un peu de réalité tangible. C'étaient des teutones massives, alourdies par l'abondance de la chair, blondes comme des valkyries. C'étaient des Italiennes, à la chevelure noire et huileuse, au teint d'un brun olivâtre, au regard tragique. Et les petits toreros riaient au souvenir de leurs premières intimités avec ces amies enthousiastes. Vous n'imaginez pas ce que sont ces femmes-là, cher maître. Elles veulent à toute force qu'on leur explique la manière de combattre les taureaux, et pour contenter leurs caprices, il faut, dans le moment où l'on aurait plutôt envie de dormir, sauter à bas du lit, placer au milieu de la chambre une chaise qui figure le bicho, faire des passes de cap avec un drap et planter des banderilles avec les pincettes. Après cette leçon de tauromachie, la danseuse ou la chanteuse ne manquait pas de demander à son bel ami le cadeau d'une riche cape brodée d'or pour s'en parer lorsqu'elle se produirait en public. Et le bel ami promettait généreusement de satisfaire ce désir. Mais comme on n'a pas de ces capes-là à la douzaine et qu'on ne peut pas les acheter pour deux sous, le cadeau se faisait attendre. Cependant, la liaison des amants devenait de plus en plus étroite et le novio s'en autorisait pour solliciter de sa maîtresse quelques prêts pour porter au mont-de-piété les bijoux qu'elle avait eu la faiblesse de lui remettre, pour faire main basse sur tout ce qui lui tombait entre les griffes. Et finalement, lorsque la femme, réveillée de son rêve d'amour, protestait contre cet abus de confiance, le torero, par une magistrale raclée, lui démontrait la force de sa passion et recouvrait son prestige de héros légendaire. Outre les distractions qu'offrait à Galardo la compagnie de cette peu scrupuleuse jeunesse, il avait encore, pour se récréer, l'obséquieux empressement d'un certain admirateur qui le persécutait de ses suppliques. C'était un cabaretier de Las Ventas, un rude Galicien musclé comme un Hercule, court d'encolure, haut en couleur, qui avait amassé une modique fortune dans sa guinguette, où les servantes et les soldats venaient danser le dimanche. Il n'avait qu'un fils, petit de taille et faible de constitution, mais destiné néanmoins, de par la volonté paternelle, à devenir une des gloires de la tauromachie. « Ce gamin-là promet, » déclarait le cabaretier à Galardo. « Vous savez, Seigneur Juan, que je m'y connais un peu. J'ai déjà dépensé passablement d'argent afin de le lancer dans la carrière. Mais pour aller loin, il lui faut un parrain, et il ne saurait en avoir de meilleur que vous. Ah, si vous consentiez à diriger une noviade où mon fils tuerait, on y viendrait en foule, et c'est moi qui prendrais tous les frais à ma charge. » Ce malheureux garçon, qui d'abord, comme tant d'autres enfants du peuple, s'était passionné pour les courses de taureaux, avait maintenant à subir la tyrannie de son père, fermement convaincu de sa vocation. Une nuée de parasites, d'aficionados de bas étage, d'anciens péons qui ne conservaient de leur obscur passé tauromachique aucun autre prestige que la colette, s'agitait autour du cabaretier, consommé chez lui à crédit, sollicité de menus subsides en échange de leurs conseils. et tous ensemble, ils formaient avec le père une sorte d'assemblée délibérante qui avait pour unique objet de tirer de l'ombre la future étoile. Le bonhomme, sans même consulter son fils, organisait des courses dans les arènes de Tétouan ou de Vallecas, et il se chargeait invariablement des frais. Ces cirques de banlieue se mettent volontiers à la disposition de quiconque éprouve le désir de se faire corner et piétiner par un taureau sous les regards de quelques centaines de spectateurs. Mais ce n'est pas un divertissement gratuit. Pour rouler sur le sable, les culottes en lambeaux, le corps souillé de boue et de sang, il faut payer d'avance la location de toutes les places. C'était le père qui se chargeait de distribuer lui-même les billets, et il remplissait l'amphithéâtre d'amis complaisants et d'aficionados besogneux. En outre, il devait financer pour le salaire des péons et des banderilleros qui formaient la quadrille de son fils et qui combattaient, vêtus de leurs habits ordinaires, tandis que celui-ci éblouissait l'assistance par un costume tout neuf que le tailleur de Gallardo lui avait confectionné, moyennant 7 000 réaux. C'était pour l'avenir du petit, et il ne fallait pas lésiner. Pendant la course, le cabaretier, debout entre les deux barrières, animait l'apprenti matador en brandissant un gros gourdin qu'il ne quittait jamais. Et dès que le jeune homme faisait mine de se reposer un instant, le terrible papa se dressait derrière lui, maflu et apoplectique. « T'imagines-tu que je dépense mon argent pour que tu te croises les bras ? Un peu d'amour-propre, morbleu, et ne reste pas à minauder comme une demoiselle !» Puis, quand le pauvre garçon, dans son costume de soie rouge, revenait à la maison, tout tremblant, la culotte déchirée, les os moulus, la mère courait à lui, pâle d'inquiétude, les bras ouverts. Mais le cabaretier, brandissant toujours son gourdin, hurlait de fureur. « Feignant, poule mouillée, tu as été pire qu'un mallette, et dire que c'est pour ce pleutre-là que je me suis ruiné !» Sous la menace du gourdin, le diestre, paré de soie et d'or, qui venait d'assassiner deux inoffensifs bouvillons, prenait la fuite en cachant sa tête entre ses bras, tandis que sa maman s'efforçait de le protéger. Mais dès le lendemain, le cabaretier avait retrouvé son optimisme. On n'a pas toujours la main heureuse, plus d'un matador fameux s'est vu en aussi mauvaise posture. Et il organisait de nouvelles courses aux arènes de Tolède ou de Guadalajara avec l'assistance de ses fidèles amis et, bien entendu, à ses frais. Sur ces entrefaites, le matador reçut une longue lettre de Carmen. La pauvre femme, après avoir longtemps hésité, avait pris enfin la résolution de dire à son mari tout ce qu'elle avait sur le cœur, et elle le lui disait sans circonlocution. Il fallait que Juan coupât sa collette et vînt paisiblement vivre de ses rentes, soit dans sa maison de Séville, soit dans sa ferme de la Rinconade, près des siens, les seuls qui eussent pour lui une sincère affection. Elle n'avait pas un moment de tranquillité, elle était plus tourmentée par l'inquiétude que dans les premières années de son mariage. Toutes les nuits, son sommeil était troublé par d'épouvantables cauchemars. Ah, le public avait été trop ingrat. Cette foule sanguinaire avait perdu la mémoire de ce que Gallardo avait fait pour elle lorsqu'il était en possession de toute sa vigueur. La lettre se terminait ainsi. « Nous t'en supplions, mon cher Juan, ta mère et moi. Prends ta retraite. Pourquoi t'aurais davantage ? Nous avons bien assez pour vivre et je souffre horriblement de te voir insulté par cette canaille qui ne te vaut pas. Ah, mon Dieu, s'il t'arrivait un malheur, je crois que j'en deviendrais folle. » Cette lettre émut beaucoup Gallardo, mais elle ne réussit pas à le convaincre. Prendre sa retraite ? Quelle sottise ! Des lubies de femme. Au surplus, c'était facile à dire, mais ce n'était pas facile à faire. Se couper la collette à 30 ans, comme ses ennemis riraient de lui. Non, il n'avait pas le droit de se retirer tant que son corps serait sain et capable de combattre. Jamais torero n'avait abandonné les arènes dans de pareilles conditions. N'était-ce donc rien que la gloire ? Ne devait-on pas avoir l'amour-propre de son métier ? Que diraient les 1000 et 1000 enthousiastes qui avaient eu pour lui tant d'admiration ? Et qu'auraient-ils à répondre quand les autres leur jetteraient à la face que Gallardo s'était retiré par poltronnerie ? Et puis, quoique l'argent ne soit pas tout, force était bien aussi d'y songer. En somme, l'état de ses finances n'était pas brillant. Il n'avait pour capital que les épargnes réalisées dans les premières années de son mariage. Par la suite, il est vrai, ses gains avaient été croissants. Mais ses dépenses et ses prodigalités avaient cru beaucoup plus vite encore. Il avait joué gros jeu, mené une vie fastueuse. Les biens qu'il avait ajoutés à son domaine de la Rinconada pour l'arrondir, il les avait acquis au moyen d'emprunts faits à Don José et à d'autres amis. Certes, il restait en possession d'une honnête aisance, mais s'il renonçait aux superbes revenus des courses, 200 ou 300 000 pesetas par an, il serait obligé, quand il aurait payé ses dettes, à restreindre beaucoup son luxe et à vivre en gentilhomme campagnard sur le produit de ses terres. Or, cette obscure existence de modeste propriétaire, astreinte à l'économie, l'effrayait, lui qui était accoutumé à parader fièrement devant les foules et à jeter l'or par les fenêtres. Il devrait mettre un frein à sa libéralité de grand seigneur, se priver désormais de crier dans les cafés et dans les cabarets « C'est moi qui paie tout !» Il devrait congédier la bande de parasites et des flatteurs qui pullulaient autour de lui et dont les requêtes pleurardes le divertissaient. Si une jolie fille du peuple venait encore le trouver, il ne pourrait plus la faire pâlir d'émotion en lui passant aux oreilles des pendants d'or et de perles. Et il ne pourrait plus s'amuser à tacher de vin son beau foulard de soie pour lui faire ensuite la surprise de lui en offrir un autre plus riche. Il était un matador à l'ancienne mode, prodigue, magnifique, bourreau d'argent, prompt à secourir les malheureux par de princières aumônes, et il s'était toujours moqué des toreros de la nouvelle école, vulgaires industriels qui tenaient leur compte comme de petits marchands, faisant minutieusement la balance des frais et des recettes, et n'avaient garde d'oublier les 5 centimes d'un verre d'eau bu dans une gare. Non, non, jamais Galarde ne voudrait renoncer à son faste et à se résigner à cette lésinerie. Et il pensait aussi aux besoins de sa famille, où tout le monde était habitué à la vie opulente depuis que l'argent affluait dans la maison comme d'une source inépuisable. Outre sa mère et sa femme, il avait à ses crochets sa sœur, son beau-frère, toutes leurs marmailles, et c'est lui qui était obligé de les entretenir, puisque ce bavard d'Antonio, convaincu que son alliance avec un homme célèbre l'autorisait à un perpétuel farniente, avait définitivement renoncé au travail. La pauvre maman ne pourrait plus réjouir ses derniers jours par d'abondantes aumônes, distribuer l'argent à profusion entre les femmes indigentes du voisinage et prendre cette mine confuse de fillette en faute qu'elle avait coutume de prendre lorsque son fils faisait semblant de se mettre en colère parce qu'elle avait épuisé en 15 jours les 100 douros destinés à ses charités. Quant à Carmen, si économe, si dévouée aux intérêts de son mari, elle serait la première à restreindre volontairement sa dépense, à s'imposer des privations, à retrancher l'élégant superflu qui embellissait sa vie. Hélas, tout cela manifesterait une évidente déchéance et le matador rougissait de honte à la seule pensée d'y consentir. Il se disait que ce serait un crime de réduire ainsi les siens à la portion congrue. Et que fallait-il pour éviter un tel désastre? Il ne fallait qu'aborder plus franchement les taureaux, se jeter plus résolument entre leurs cornes. Eh bien, il les aborderait, il se risquerait avec autant de témérité qu'autrefois. Il répondit à sa femme par une lettre assez courte où il affectait la gaieté, mais où certains mots laissaient deviner un secret froissement d'amour-propre. Il la grondait doucement de n'avoir plus la même foi en lui. Il parlait de ses échecs récents comme de malchances fortuites et sans importance, et il terminait en promettant des merveilles pour la course prochaine, à condition toutefois que les taureaux fussent bons. Avec de bons taureaux, il damerait le pion à Roger de Flore. De bons taureaux, telle était désormais sa préoccupation constante. Jadis, une de ses vanités était de ne pas s'occuper du bétail, de ne pas aller, avant la course, voir dans le toril les animaux qui lui étaient destinés. « Je fais connaissance avec eux lorsqu'ils entrent dans l'arène, disait-il. Et je tue tout ce qu'on m'offre. » Maintenant, au contraire, il tenait à les examiner d'avance, à les choisir, à préparer son succès par une minutieuse étude de leurs qualités et de leurs défauts.